Le livre de Daniel, numéro 112. La révélation de la symbolique prophétique d'Ismaël, de l'archer à celui qui scelle les 444 000.
Et Dieu fut avec le garçon. Il grandit, habita dans le désert et devint archer. Genèse 21:20.
Ismaël devint archer, symbole de la guerre et du jugement exécutif prononcé contre Rome.
La voix de ceux qui fuient et s'échappent du pays de Babylone, pour annoncer à Sion la vengeance du Seigneur notre Dieu, la vengeance de son temple. Rassemblez les archers contre Babylone, vous tous qui bandez l'arc, campez autour d'elle. Que nul n'en réchappe. Rendez-lui selon son œuvre. Selon tout ce qu'elle a fait, faites-lui de même. Car elle s'est enorgueillie contre le Seigneur, contre le Saint d'Israël. Jérémie 50, 28, 29.
Les archers rétribuent Babylone selon ses œuvres, et cette rétribution commence avec la collecte du dimanche imminente au moment de la seconde voie d'Apocalypse chapitre 18, lorsque débute le jugement exécutif progressif de Babylone.
Et j'entendis une autre voix venant du ciel, qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux. Car ses péchés ont atteint jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a rendu, et payez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Car elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai point le deuil. » Apocalypse 18, 4, 7.
Ismaël et sa mère Agar avaient été empêchés d'hériter du droit d'aînesse et furent chassés. Ainsi, la jalousie devint la motivation prophétique de l'islam et la guerre leur occupation prophétique. La première mention inclut la contrainte imposée à Ismaël et à sa mère par Sarah et leur « contrainte » devint une caractéristique prophétique majeure de l'islam à travers la parole de Dieu et l'histoire. Les descendants d'Ismaël devaient être des hommes sauvages dont la main serait contre tout homme et leur caractère sauvage est représenté par l'âne sauvage d'Arabie, de la famille des chevaux. Ainsi, la guerre islamique des premiers et seconds malheurs est représentée par des guerriers montés sur des chevaux furieux. Il islam est le message de la pluie de l'arrière-saison, et il convient que les trois malheurs représentent trois lignes prophétiques spécifiques, car la méthodologie de la pluie de l'arrière-saison est ligne sur ligne. Lorsque les caractéristiques prophétiques des deux premières lignes sont réunies, elles établissent la ligne du troisième malheur. Les trois lignes prophétiques illustrent la période du scellement des 144 000. Ces trois lignes représentent la période de l'effusion de la pluie de l'arrière-saison, car la pluie de l'arrière-saison a commencé à tomber légèrement lorsque le troisième malheur est arrivé le 11 septembre 2001.
La pluie de l'arrière-saison doit tomber sur le peuple de Dieu. Un ange puissant doit descendre du ciel, et toute la terre doit être illuminée de sa gloire. Review and Herald, 21 avril 1881.
La période du scellement était également représentée par la période qui a commencé le 11 août 1840 et s'est terminée avec l'arrivée du troisième ange le 22 octobre 1844. Cette période était également représentée dans Habacuc, chapitre 2. L'histoire millérite a accompli Habacuc, chapitre 2, et ce faisant, elle a commencé lorsque l'ange est descendu le 11 août 1840 et elle s'est terminée lorsque le troisième ange est arrivé le 22 octobre 1844. Le chapitre 2 d'Habacuc indique qu'à la fin de la vision, celle-ci parlerait. Au verset 3 du chapitre 10 de l'Apocalypse, l'ange cria, parla d'une voix forte, et le 22 octobre 1844, le même ange jura, parla, que le temps ne serait plus. La sentinelle d'Habacuc, au verset 3 du chapitre 2, se situe au 11 août 1840, car c'est alors que les sentinelles élèvent la voix. Lors de la rébellion de 1888, que Sir White identifie comme représentant l'ange d'Apocalypse 18 qui devait éclairer la terre de sa gloire, les sentinelles, Jones et Wagoner, ont élevé leur voix comme une trompette pour montrer au peuple de Dieu ses transgressions, car leur message était le message adressé à Laodicée. Le 11 septembre du Lilin, événement préfiguré par l'histoire de 1888, le Seigneur a ramené son peuple des derniers jours aux anciens sentiers de Jérémie, où les sentinelles n'ont pas été écoutées. La descente de l'ange marque l'arrivée prophétique des sentinelles. La voix qui arriva le 11 août 1840 fut transmise par l'entremise des sentinelles, et l'on dit à Jérémie que, s'il revenait à sa foi et à sa confiance en Dieu après sa déception, il deviendrait la bouche de Dieu. Lorsque la vision qui avait tardé arriva enfin le 22 octobre 1844, elle parla. La période du chapitre 2 d'Habacuc, qui s'est accomplie dans l'histoire millérite, illustre la période du scellement des 144 000. Il est essentiel de reconnaître que la période allant du 11 août 1840 au 22 octobre 1844 illustre le scellement des 144 000. Il s'agit de la période où la pluie de l'arrière-saison est répandue. Il est essentiel que le message de la pluie de l'arrière-saison soit identifié par la méthodologie ligne sur ligne. La période spéciale qu'est le scellement des 144 000 est à plusieurs reprises représentée dans les lignes prophétiques. Et c'est le cas dans Habacuc 2 que Sir White identifie directement comme ayant trouvé son accomplissement dans l'histoire millérite. Elle enseigne aussi à plusieurs reprises que l'histoire millérite se répète dans l'histoire des 144 000.
Entremêlé de prophéties qu'ils avaient considérées comme s'appliquant au temps du second avènement, se trouvait un enseignement spécialement adapté à leur état d'incertitude et d'attente, et les encourageant à attendre patiemment dans la foi que ce qui était alors obscur à leur entendement serait, en temps voulu, rendu clair. Parmi ces prophéties figurait celle d'Habacuc 2:1-4. « Je me tiendrai à mon poste de garde, je me placerai sur la tour, et je guetterai pour voir ce qu'il me dira, et ce que je répondrai quand je serai repris. » Et l'Éternel me répondit et dit, « Écris la vision, et rends-la claire sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps fixé, elle tend vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Voici, son âme qui s'enfle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Dès 1842, la directive donnée dans cette prophétie d'écrire la vision et la rendre claire sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir, avait suggéré à Charles Fitch la préparation d'un tableau prophétique pour illustrer les visions de Daniel et de l'Apocalypse. La publication de ce tableau fut considérée comme l'accomplissement de l'ordre donné par Habacuc. Personne, toutefois, ne remarqua alors qu'un délai apparent dans l'accomplissement de la vision, un temps d'attente dans cette même prophétie. Après la déception, ce passage parut très significatif. La vision est encore pour un temps fixée, mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Le juste vivra par sa foi. Une portion de la prophétie d'Ézéchiel fut aussi une source de force et de consolation pour les croyants. La parole de l'Éternel me fut adressée, disant, « Fils de l'homme, quel est ce proverbe que vous avez dans le pays d'Israël ? Les jours se prolongent et toute vision échoue. Dis-leur donc, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Les jours sont proches et l'accomplissement de toute vision. Je parlerai et la parole que je dirai s'accomplira, elle ne sera plus différée. Ceux de la maison d'Israël disent, la vision qu'ils voient est pour bien des jours à venir et ils prophétisent au sujet de temps lointains. Dis-leur donc, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aucune de mes paroles ne sera désormais différée, mais la parole que j'ai prononcée s'accomplira. Ézéchiel 12, 21, 25, 27, 28. La grande controverse, 391-393.
Les Millerites ne se voyaient pas seulement accomplir la parabole des 10 vierges et le chapitre 2 d'Habacuc, mais ils furent aussi conduits à voir que l'histoire dans laquelle ils accomplissaient ces prophéties était également, chez Ézéchiel, l'identification de cette même histoire, où l'effet de chaque vision devait s'accomplir. La ligne d'histoire qui représente le scellement des 144 000 est là où l'effet de chaque vision s'accomplit. Les lignes qui représentent la période de la pluie de l'arrière-saison et le scellement des 144 000 sont réunies pour établir que l'histoire prophétique porte invariablement la signature de l'alpha et de l'oméga. L'histoire millérite commence avec la voix de l'ange d'Apatemsum 10 et se termine par la même voix. Le 11 septembre 2001 commence avec la première voix d'Apakems 18 et se termine par la deuxième voix d'Apakems 18. Le chapitre 2 d'Habacuc commence avec la voix des veilleurs et se termine par la voix du veilleur de Jérémie. Le premier malheur commence avec Mohamed et se termine par Mohamed 2. Le deuxième malheur commence avec la libération des quatre anges de l'islam et se termine par la retenue de l'islam. La méthodologie de la pluie de l'arrière-saison est la méthodologie ligne sur ligne, d'Ésaïe. Et les lignes qui sont rapprochées pour identifier et établir le message de la pluie de l'arrière-saison contiennent invariablement la signature de l'alpha et de l'oméga. Le premier malheur du chapitre 9 de l'Apocalypse commence avec Mohamed et s'achève avec Mohamed II. La période se divise en deux types de guerres. D'abord des attaques désorganisées contre Rome, qui commencèrent véritablement avec Abou Bakr, puis une période de 150 ans durant laquelle la première guerre organisée de l'islam fut menée. Les 150 ans sont représentés par la prophétie de temps des 5 mois. Le deuxième malheur possède également une prophétie de temps, qui est de 380 ans, 11 et 15 jours. Par conséquent, puisque la structure prophétique du premier et du deuxième malheur associe la fin au commencement, elle comporte une division entre le scellement et une période de temps déterminée. Le processus de scellement est représenté au début de l'histoire du premier malheur, et il est représenté à la fin du deuxième malheur. Ce qui suit le scellement du secatro, dans le premier malheur, ce sont les 5 mois, 150 ans. Ces 5 mois sont mentionnés deux fois, une fois au verset 5 et de nouveau au verset 10. Ce qui précède le processus de scellement du 11 août 1840 au 20 octobre 1844, dans le deuxième malheur, c'est la prophétie de l'heure, le jour, le mois et l'année. 380 ans et 15 jours, au verset 15. Ensemble, dans une même continuité, les cinquième et sixième trompettes commencent et s'achèvent par une illustration du processus de scellement. Comme deux lignes, appliquées ligne sur ligne, elles identifient un début et une fin marqués par Mohammed le premier et Mohammed le second. Ligne sur ligne, elles identifient deux périodes distinctes dans chaque ligne, ce qui résulte du fait que chaque ligne possède une prophétie temporelle. Dans l'histoire du premier malheur, l'islam devait blesser Rome, et dans le second malheur, il devait tuer Rome. Le premier malheur fut une guerre de lances, d'épées et de flèches, et le second malheur introduisit la poudre à canon comme armement.
Verset 10. Et ils avaient des queues semblables à celles des scorpions, et il y avait des aiguillons dans leurs queues, et leur pouvoir était de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. 11. Ils avaient sur eux un roi, qui est l'ange de l'abîme sans fond, dont le nom, en langue hébraïque, est Abaddon, mais en langue grecque, son nom est Apollyon. Jusqu'ici, Keith nous a fourni des illustrations du retentissement des 5 premières trompettes. Mais il nous faut maintenant prendre congé de lui et passer à l'application du nouvel élément de la prophétie introduit ici, à savoir les périodes prophétiques. Leur pouvoir était de blesser les hommes pendant 5 mois. 1. La question se pose, quels hommes devaient-ils blesser pendant 5 mois? Sans aucun doute les mêmes qu'ils devaient ensuite tuer. Voir le verset 15. Le tiers des hommes, ou le tiers de l'Empire romain, la division grecque de celui-ci. 2. Quand devaient-ils commencer à tourmenter? Le verset 11 répond à la question. 1. Ils avaient un roi à leur tête. Depuis la mort de Mahomet jusqu'à peu avant la fin du XIIIe siècle, les Mahométans étaient divisés en diverses factions sous plusieurs chefs, sans aucun gouvernement civil général qui s'étendait sur eux tous. Peu avant la fin du XIIIe siècle, Othman fonda un gouvernement qui a depuis été connu sous le nom de gouvernement ottoman ou empire ottoman, lequel se développa jusqu'à s'étendre sur toutes les principales tribus mahométanes, les consolidant en une seule grande monarchie. Next second, Jambawai. Qui est l'ange de l'abîme? Le mot ange désigne un messager, un ministre, bon ou mauvais, et pas toujours un être spirituel. L'ange de l'abîme, c'est-à-dire Ingé le principal ministre de la religion qui en sortit lorsqu'il fut ouvert. Cette religion est le mahométisme, et le sultan en est le principal ministre. Le sultan, ou grand seigneur, comme on l'appelle indifféremment, est aussi calife suprême, ou grand prêtre, réunissant en sa personne la plus haute dignité spirituelle avec l'autorité séculière suprême. World as it is, page 376. 3. Son nom. En hébreu, Nabadon, le destructeur. En grec, Apollyon, celui qui extermine ou détruit. Et en deux noms différents dans deux langues, il est évident que c'est le caractère plutôt que le nom de la puissance qui est destiné à être représenté. Si c'est ainsi, tel qu'exprimé dans les deux langues, il est un destructeur. Tel a toujours été le caractère du gouvernement ottoman. Mais quand Othman porta-t-il son premier assaut contre l'Empire grec? Selon Gibbon, déclin et chute, etc., Othman entra pour la première fois sur le territoire de Nicomédie le 27 juillet 1299. Les calculs de certains auteurs se sont fondés sur l'hypothèse que la période devait commencer avec la fondation de l'Empire ottoman. Mais c'est manifestement une erreur, car ils ne devaient pas seulement avoir un roi au-dessus d'eux, mais aussi tourmenter les hommes pendant 5 mois. Or, la période de tourment ne pouvait pas commencer avant la première attaque des tourmenteurs, laquelle eut lieu, comme indiqué ci-dessus, le 27 juillet 1999. Le calcul qui suit, fondé sur ce point de départ, a été effectué et publié dans un ouvrage intitulé « Christ's Second Coming », etc., par G. Leach en 1838. Et ils avaient le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Jusque-là s'étendait leur mission, tourmenter par des déprédations constantes, mais non pas les tuer politiquement. 5 mois, à raison de 30 jours par mois, donnent 150 jours, et ces jours, étant symboliques, signifient 150 ans. À partir du 27 juillet 2199, les 150 ans mènent jusqu'en 1089. Pendant toute cette période, les Turcs furent engagés dans une guerre presque perpétuelle avec l'Empire grec, sans toutefois le conquérir. Ils s'emparèrent de plusieurs provinces grecques et les conservèrent, mais l'indépendance grecque fut néanmoins maintenue à Constantinople. Mais en 1089, à l'achèvement des 150 ans, un changement survint dont l'histoire se trouvera sous la trompette suivante. Uriah Smith, Daniel et l'Apocalypse, 507, sans Segmier.
Uriah Smith cite le calcul de Josiah Litch des 150 ans qui, une fois achevés, constituent le point de départ de la prophétie de 391 ans et 15 jours de la trompette suivante. Commentant la prédiction de Litch concernant ces deux prophéties de temps liées, Sir White a consigné
« En l'année 1840, un autre accomplissement remarquable de la prophétie éveilla un vaste intérêt. 2 ans auparavant, Josiah Litch, l'un des principaux ministres prêchant le second événement, avait publié une explication d'Apocalypse 9, annonçant la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à ce que la puissance ottomane à Constantinople soit brisée. Et je crois que l'on constatera qu'il en sera ainsi. Au moment même indiqué, la Turquie, par l'intermédiaire de ses ambassadeurs, accepta la protection des puissances alliées de l'Europe et se plaça ainsi sous le contrôle des nations chrétiennes. L'événement accomplit exactement la prédiction. Lorsqu'on le sut, des multitudes furent convaincues de la justesse des principes d'interprétation prophétique adoptés par Miller et ses associés, et une impulsion merveilleuse fut donnée au mouvement adventiste. Des hommes de savoir et de position s'unirent à Miller, tant pour prêcher que pour publier ses vues, et de 1840 à 1844, l'œuvre s'étendit rapidement. The Great Controversy, 334-335.
Le premier et le second malheur sont reliés par deux prophéties de temps interconnectés. Le premier malheur commence par une illustration du scellement, et le second malheur se termine par l'histoire comprise entre le son d'onde l'actuel 1010/40 et le retentissement de la 7e trompette, le 22 octobre 1010/44, qui est également une illustration du scellement. Le début et la fin portent la signature de l'alpha et de l'oméga, car, comme dans l'histoire où le Christ confirma l'alliance pour une semaine, la période est divisée en deux parties. La première période commence avec le premier Mahomet et se termine avec le second Mahomet. La seconde période commence par une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et elle se termine par la voix du Christ, jurant par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent, et la terre et les choses qui s'y trouvent, et la mer et les choses qui s'y trouvent, qu'il n'y aurait plus de temps. Nous poursuivrons cette étude dans le prochain article.
Toute question que Satan peut susciter dans l'esprit pour faire naître le doute à l'égard de la grande histoire des pérégrinations passées du peuple de Dieu fera plaisir à sa majesté satanique et constitue une offense envers Dieu. La nouvelle de la prochaine venue du Seigneur en puissance et en grande gloire dans notre monde est la vérité. Et en 1840, de nombreuses voix se sont élevées pour la proclamer. Manuscript Release, volume 9, 134.